Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
La période des confirmations a démarré fin avril avec les premières confirmations que vous avez célébrées à Lourdes et jusqu'au mois de juin, vous confirmerez de très nombreuses personnes et notamment de nombreux jeunes dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors parlons de cette jeunesse bigourdane. Que percevez-vous d'elle ? Que percevez-vous de notre jeunesse chrétienne dans le diocèse de Tarbes et Lourdes ?
D'abord qu'elle existe et ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a des jeunes, et il y a des jeunes dans les paroisses, il y a des jeunes dans des mouvements. Alors évidemment, ils sont très très présents. Et il y a des jeunes dans les écoles aussi. Et il y a une belle dynamique dans un certain nombre d'établissements scolaires catholiques du diocèse. Donc j'ai l'occasion de les voir, pour ma part, quand je suis invité à participer, à célébrer une messe, à l'occasion d'un camp, à l'occasion... des confirmations, bien sûr, et puis dans telle ou telle école ou dans telle ou telle paroisse. Bon. Actuellement, en effet, vous l'avez souligné, il y a la préparation des JMJ, et c'est aussi un beau groupe qui a un vrai dynamisme et qui se déplace de paroisse en paroisse pour se faire connaître, pour appeler au soutien des fidèles des communautés. Alors, ce que je perçois de cette jeunesse, bien, c'est qu'elle existe, je viens de le dire. C'est qu'elle a une foi très décomplexée.
Et, ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire qu'il ne se cache pas, qu'il n'y a pas honte, qu'il n'y a pas peur, qu'il est moins empêtré que la génération de leurs parents, grands-parents, sans doute, dont je fais partie. Dans notre culture française, dans notre société française, à être un peu plus timide, à être un peu attentif, à ne pas indisposer les autres par rapport à l'Église, par rapport... Bon. Eux, ils s'en fichent complètement. Ils ont la foi, ceux qui sont là, évidemment. Et ils le montrent sans état d'âme et avec une belle joie qui fait du bien à tout le monde.
Ils sont plus missionnaires que les deux générations qui les ont précédés ?
Ben, j'ai envie de dire ils le sont parce qu'ils sont, tout simplement. Par leur rayonnement et le témoignage qu'ils portent, sans doute là où ils sont, dans les écoles et ailleurs. C'est ça être missionnaire, c'est de rayonner. Et dans l'Évangile, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul, de Pierre, c'est d'être capable de rendre compte de l'espérance qui nous habite à ceux qui nous le demandent. Et donc, ils n'élaborent pas de grandes stratégies missionnaires nécessairement, mais simplement, ils témoignent de leur foi en Dieu. Voilà, et comme ça rayonne et que ça fait plaisir à voir. Et depuis toujours, ceux qui me connaissent savent qu'il y a une expression voilà, que j'utilise volontiers, il vaut mieux faire envie que pitié. Bon, ben, ces jeunes, ils sont missionnaires en faisant plus envie que pitié, donc c'est formidable.
Alors, pour se préparer à recevoir ce sacrement de confirmation, ces jeunes vous écrivent. C'est la tradition. Le jeune qui demande à recevoir ce sacrement de confirmation écrit à l'évêque. Alors, évidemment, sans nous dévoiler les secrets qu'ils peuvent vous confier, dans les lettres que vous avez déjà lues, qu'est-ce que vous avez perçu, retenu ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes ? De quoi ont-ils envie ou besoin ?
Ça a été une grande découverte pour moi. J'avais souvent entendu des évêques dire que les lettres des confirmants étaient des moments très très forts pour eux, pour leur ministère. J'ai découvert ça après mon ordination l'année dernière, où pour la première fois j'ai lu des lettres de confirmants. Comme prêtre en paroisse, j'avais préparé des confirmants, mais je mettais un point d'honneur à ne pas lire ce qu'ils écrivaient à l'évêque. Donc je n'avais jamais lu de lettres de confirmants, à pas strictement parler. Et donc, ben, forcément, j'en ai lu déjà pas mal. Et alors, je vois bien, à travers le plan de certaines lettres, je vois bien l'aide qu'ils ont reçue pour les rédiger. D'abord, premier point, vous vous présentez. Deuxième point, vous dites ce que vous avez vécu avec le groupe. Troisième point, vous dites comment vous sentez votre vie. Et puis, quatrième point, vous parlez de ce... Et au-delà de cette trame commune qu'on peut repérer ici ou là, je suis très très touché de la confiance qu'ils expriment. Alors toutes ne sont pas de qualité égale, si on peut parler comme ça. Hein. Certaines sont très très formelles, et puis elles vont droit au but, et puis bon. Et puis il y a une signature d'un garçon souvent derrière. Bon. Et puis d'autres sont beaucoup plus lyriques, beaucoup plus... vont beaucoup plus, bon, beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Et là, c'est des filles, souvent, mais des garçons aussi. Et c'est extrêmement touchant de voir la confiance qu'ils font à celui à qui ils s'adressent. Leur gentillesse aussi, je trouve qu'il y a parfois ils expriment une familiarité, une sympathie qui est de bon aloi, enfin qui est vraiment très très touchante. Et puis certains confient très profondément ce qu'ils vivent dans leur cœur, dans leur vie de foi, dans leur vie humaine aussi. Et c'est assez bouleversant. Et j'aime bien, alors sans dévoiler les auteurs des lettres, mais en préparant l'homélie du jour de la confirmation, de la célébration, citer des morceaux choisis de telle ou telle lettre. Et c'est toujours un grand moment pour moi, et je sens que ça touche aussi, parce que c'est vraiment très, très, très beau.
Alors, dans les médias, on entend souvent parler de la jeunesse comme étant une jeunesse inquiète, avec un tas de problèmes que les générations précédentes n'auraient pas connus, une jeunesse qui n'a pas de chance, qui n'a pas de levier d'espérance. Et quand on vous entend, Monseigneur Mika, on se dit, bah, en fait, notre jeunesse, elle a aussi des raisons d'espérer et d'aller bien, et elle va pas mal.
Ben, en tout cas, ceux qui sont là, évidemment, et qui ont la chance, sans doute, de grandir dans des communautés, beaucoup aussi dans des familles, d'être encadrés par des accompagnateurs, par des catéchistes, par des animateurs de jeunes, par des profs dans les écoles catholiques. Nous sommes conscients, je suis conscient, mais eux aussi, finalement, de la chance qui est la leur d'être à ce point l'objet de l'attention des aînés, des adultes. Hélas, ce n'est pas le cas de toute la jeunesse de notre pays et de nos villages, de nos communes. Mais eux, c'est le cas pour eux, ils en sont conscients. Donc ils partagent les mêmes... Voilà, des adolescents sont des adolescents, qu'ils soient dans un milieu dit favorisé ou non. Ils traversent les mêmes crises d'adolescence, d'identité, etc. que les autres.
Mais avec les mêmes dangers qui les guettent.
Ben, oui, mais ça, c'est vrai depuis que l'homme est homme. C'est comme ça. C'est pas les mêmes de génération en génération. Mais enfin, de toute façon, des dangers, il y en a eu, il y en aura. Bon. Mais ces jeunes-là, ceux que je rencontre, en tout cas dans le cadre de la confirmation, puisque c'est le sujet, tout en étant, comme leurs contemporains, traversés par exactement les mêmes difficultés, les mêmes choses, les mêmes espérances, les mêmes joies, les mêmes craintes, les mêmes peurs, tout simplement... Ils ont la chance d'identifier tout de même une raison d'espérer en plus des autres, sans doute. Et donc, ils sont là, pas sans question. Et quelquefois, dans les lettres, s'expriment, se manifestent de vraies questions, de doutes par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à l'Église. Mais ils ont des interlocuteurs à qui les exprimer. Et ça, ça change tout. Et peut-être que l'espérance, elle est d'abord fondée dans le fait que le Christ met à leur portée, à leur disposition, des témoins qui peuvent écouter leurs questions. Dans la Bible, les psaumes sont porteurs de ces mêmes questions, si on y regarde de près. Elles sont parfois adressées à Dieu avec colère et violence, mais elles sont adressées à Dieu. Et les animateurs, les parents, les communautés, les catéchistes, etc., sont là un peu dans cette même fonction, quoi, finalement.
On entend aussi donc la responsabilité, ou du moins le rôle que jouent les communautés qui entourent ces jeunes, hein, donc bien sûr les familles, mais aussi les communautés paroissiales. C'est d'ailleurs aussi un petit peu l'objectif de la tournée de la Team JMJ, hein, donc ces jeunes qui se préparent à partir aux Journées mondiales de la jeunesse et qui parcourent les paroisses depuis plusieurs mois pour précisément aller... passer du temps avec leurs aînés dans les paroisses. Alors évidemment, tous ces jeunes ne sont pas forcément ceux qui reçoivent le sacrement de confirmation, mais certains sont des jeunes confirmants. Tout ça, c'est important aussi, qu'il y ait un lien avec les communautés paroissiales et qu'il n'y ait pas d'un côté les jeunes et de l'autre côté le reste de l'Église.
Ben, c'est même essentiel. Hein. Parce qu'évidemment, on pourrait craindre... la réflexion, elle vient du côté... quand on parlait ces temps-ci, la nuit de Pâques, on a confirmé un certain nombre d'adultes. Dans l'Église de France, il y a eu plus de 5400 ou 5500 adultes baptisés. La difficulté qu'il y a ensuite pour eux, ils ont fait l'objet de beaucoup d'attention, ils ont été chouchoutés dans des équipes privilégiées, choisies, construites autour d'eux pour leur cheminement catéchuménal. Puis une fois baptisés, confirmés, eucharistiés, ben ils se retrouvent dans le mainstream de l'Église, quoi, dans les communautés, dans ce qu'elles sont, etc. Et qu'il y a pour eux un choc pour faire cette transition entre le cocon qui les a fait naître et puis la grande famille, qui est-ce qu'elle est, que l'on connaît tous par cœur, avec ses hauts, ses bas, etc. Même chose pour les jeunes. Ils sont accompagnés, chouchoutés, dorlotés dans le cadre d'équipes, d'aumôneries, de mouvements, de camps, etc. Et puis, l'enjeu, c'est de les greffer au reste de l'Église, en effet, et de les aider à aimer cette Église telle qu'elle est, avec ses pauvretés, etc., et d'avoir envie ou de comprendre qu'ils sont attendus pour faire partie de la famille et lui apporter ce qu'ils sont. Et donc, ce lien avec la communauté chrétienne général, plus large, est absolument essentiel et doit se faire avec beaucoup de bienveillance, de chaleur, d'accueil, voilà, sans excès, mais avec attention quand même, quoi. Et pas les regarder d'abord parce qu'ils chantent pas pareil que nous, parce qu'ils sont plus bruyants. En ce moment, à Lourdes, il y a le rassemblement du FRAT, il y a près de 10 000 jeunes d'Île-de-France qui sont en pèlerinage ici, je peux vous dire que du bruit, ça en fait, 10 000 jeunes. Bon, alors, y a des gens qui froncent un peu le nez, en fait, etc. Mais voilà, il faut éviter ça, évidemment. Il faut les accueillir avec ce qu'ils sont pour qu'eux aussi soient invités à nous accueillir comme nous sommes. Et ensemble, nous sommes l'Église et voilà, et tout est pour le mieux.
Une dernière question sur le sacrement de la confirmation en lui-même. Ces jeunes vont recevoir l'Esprit-Saint, comment l'Esprit-Saint peut-il agir dans la vie, dans le cœur de ces jeunes? Est-ce qu'il y a un âge idéal, d'ailleurs, pour recevoir l'Esprit-Saint?
On le reçoit dès le baptême, l'Esprit-Saint, en réalité. Et la chrismation que l'on fait au baptême, l'onction de Saint-Crème, est déjà un premier don de l'Esprit-Saint. C'est ce même geste qui est répété dans le sacrement de la confirmation. Alors, l'âge idéal pour recevoir ce sacrement de la confirmation, mais d'après les orthodoxes, c'est au moment du baptême, donc 3 jours après être né. Nous, pour des raisons pédagogiques, on a repoussé la célébration de la confirmation à l'adolescence, et on a insisté dans les explications que l'on donne sur le fait que c'est du coup le moyen de ratifier librement le choix fait jadis par les parents lorsqu'ils ont demandé le baptême pour nous. Bon, on insiste donc sur cette démarche de liberté personnelle qui vient ratifier quelque chose qui a été posé à un moment où on n'était pas en état de donner son avis. Bon. Mais voilà, donc c'est un choix pédagogique qui a été fait. Aujourd'hui, plusieurs diocèses, plusieurs paroisses font le choix de rebaisser l'âge de la confirmation et de le ramener à l'âge finalement de la catéchèse et de remettre les sacrements d'initiation dans le bon ordre. C'est-à-dire l'ordre normal, idéal, c'est baptême, confirmation, eucharistie. C'est ça les sacrements de l'initiation tels qu'ils sont exposés. Et voilà. Or, pour des raisons pédagogiques, on a inversé confirmation et eucharistie. On fait d'abord la première communion et puis la confirmation un peu plus tard. Certains font le choix de revenir à l'ordre premier, initial. Baptême, confirmation, eucharistie. Donc forcément, ça rabaisse l'âge de la confirmation. En tout cas, mon sentiment, c'est que il y a sans doute quelque chose de pas très très ajusté dans le fait de baptiser quantité de gens qui ne seront jamais confirmés ou de ne pas confirmer tous les baptisés. Enfin, bref, ce qui n'est pas bien, c'est d'avoir un énorme décalage entre le nombre de baptisés et le nombre de confirmés. Alors, soit il faut baptiser moins pour rapprocher les deux courbes, soit il faut confirmer plus, et donc souvent plus tôt, pour rapprocher les deux courbes. Mais qu'il y ait un trop grand écart entre la courbe des baptêmes et la courbe des confirmations, ça, c'est pas normal, parce que les sacrements de l'initiation, c'est vraiment baptême, confirmation, eucharistie, c'est les trois. Et ça fait un tout. L'Esprit-Saint, il est donné, tout le temps, il est donné dans les trois moments. Et voilà, donc la chrismation reçue à la confirmation, elle réplique celle reçue au baptême, et elle s'adapte à l'état de la personne qui le reçoit, que ce soit un jeune, un enfant, un adolescent ou un adulte. Et la force de l'Esprit-Saint est redonnée à ce moment-là d'une manière particulière, privilégiée, immense. Mais il ne faut pas oublier qu'on reçoit l'Esprit-Saint chaque fois qu'on célèbre un sacrement, chaque fois qu'on participe à la messe de Pentecôte. L'Esprit-Saint est donné tout au long de notre vie chrétienne.
L'objectif étant de lui faire la plus grande place dans notre vie. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. Donc, on a dit qu'après avoir confirmé les jeunes de Lourdes, vous serez prochainement à Vic-en-Bigorre, puis à Tarbes, à Garaison, allez au collège et lycée de Garaison, puis encore plus tard dans d'autres ensembles paroissiaux pour confirmer encore de nombreux jeunes de notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci à vous et à très bientôt.
et les adultes la veille de Pentecôte.
Bien sûr, à la cathédrale de Tarbes, à 21h.
Merci, très bonne semaine à vous.